Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur Lefebvre raconte que lorsqu'il était prêtre missionnaire en Afrique, il fut un jour appelé dans une des missions, des stations éloignées, pour donner d'urgence les derniers sacrements à un mourant. Il quitte donc le centre de la mission, et lorsqu'il arrive, après un voyage toujours un peu long et pénible, lorsqu'il arrive dans la station, il demande évidemment à voir aussitôt le malade. C'est celui-ci qui le reçoit sur la place du village en pleine forme. « Comment, moi mourant, mais pas du tout, je vais très bien. » Monseigneur Lefebvre fait contre mauvaise fortune bon cœur. Au lieu de se fâcher, au lieu de regretter et de se plaindre, il dit « Écoutez, puisque je suis ici, je vais en profiter pour m'occuper de vous tous, faire du catéchisme, vous donner la messe, les sacrements, etc. » Je pars tout à l'heure pour donner les derniers sacrements que l'on m'a demandé à Paris. Cela va me prendre toute la journée. Je me dépêche d'enregistrer le sermon parce que ce soir je rentrerai trop tard. Si je vous raconte cela, c'est parce que il faut surtout que vous n'hésitiez pas à nous demander ce genre de service. Une âme est un grand diocèse. Et nous serons toujours heureux de nous déplacer, ne serait-ce que pour une seule âme. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus que cela à faire. Notre Seigneur dit qu'il envoie les apôtres à la pêche. Très souvent dans l'Évangile, c'est la pêche au filet, mais aujourd'hui, il ne nous reste plus que la pêche à la ligne. Alors, courage, nous y arriverons. Et avec le secours de la Très Sainte Vierge. Je voudrais aujourd'hui faire un peu la synthèse des sermons que je vous ai donnés et de l'enseignement que je vous ai donné sur la lutte entre les deux cités, sur l'attitude que vous devez avoir. Et je vous conseille un livre très précieux de Don Chotard qui s'appelle « L'âme de tout apostolat ». Il est en vente sur mon site. Il faut surtout que le titre ne vous fasse pas peur. Vous n'êtes probablement pas habitué à l'apostolat, et dans les circonstances actuelles, on se demande vraiment si le prêtre qui conseille encore de faire de l'apostolat n'est pas fou. Et pourtant, j'ai vu dans mes longues années au MJCF un apostolat de laïcs et même de jeunes, donc de gens maladroits et encore sans expérience, mais plein du feu de Dieu, plein du feu du Saint-Esprit, dont paradoxalement les maladresses étaient souvent les plus fructueuses, parce que justement elles démontraient qu'il n'y avait chez eux aucune arrière-pensée et uniquement le feu de l'amour de Dieu et le feu de la foi. Je vous ai dit déjà que les prêtres missionnaires en Chine, lorsqu'ils font le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, disent « Lorsque nous avons demandé aux chrétiens de vivre la vie chrétienne dans la sainteté, nous n'avons rien obtenu. Lorsque nous les avons lancés dans l'apostolat, nous avons obtenu et la vie chrétienne et l'apostolat. » Il suffit de lire les récits des prisonniers pour voir ce que peut être l'apostolat et ce que doit être l'apostolat. Je vous ai déjà fait des sermons sur ce sujet lorsque j'ai parlé de la vie intérieure et des rapports entre la contemplation et l'action. C'était peut-être un peu théorique, et là encore, quand on parle de contemplation, de vie mystique, cela fait un peu peur. Il faut savoir se jeter à l'eau. Dieu veut les œuvres et la vie intérieure qui se fortifient mutuellement. Donc je vous conseille, vous commencez par la vie intérieure, une vraie vie intérieure, et naturellement, elle débordera, elle rayonnera. vous essayez, à droite, à gauche, de faire aimer le bon Jésus. Vous en parlez. Vous êtes habile ou malhabile, peu importe. Vous acquérerez de l'expérience. Et avec la vie intérieure, vous verrez que ce couple vie intérieure, vie active, portera des fruits extraordinaires. Don Chotard dit, parce que la vie intérieure engendre dans les âmes la vie intérieure, ses résultats sont profonds et durables. Et je vous avoue que quand j'étais jeune séminariste, on me propose quelque chose qui est profond et durable. Il est évident que c'est exactement ce que je cherchais. À l'époque, je croyais encore que j'allais convertir la Terre et peut-être même la Lune. Maintenant, le bon Dieu m'a rappelé aux réalités, mais jamais, jamais, je n'ai oublié et j'ai toujours essayé de mettre en œuvre ce principe fondamental, parce que la vie intérieure engendre la vie intérieure, ses résultats dans les âmes sont profonds et durables. Le premier apostolat que vous avez amené, c'est celui de votre famille. Si vous êtes père et mère de famille, c'est celui de votre famille. Beaucoup de témoignages que l'on peut lire aujourd'hui de prêtres nous révèlent que l'origine, la cause de leur vocation, c'est une vie familiale chrétienne intense. On peut dire qu'il y a aujourd'hui deux sources de vocation. La vie chrétienne familiale intense, droite, généreuse, et puis la découverte du service de Dieu à travers l'apostolat. Trois parties dans ce sermon. Premièrement, la pratique de la vie intérieure. Deuxièmement, la pratique des œuvres. Et troisièmement, des conseils que je prends tout simplement chez Don Chotard. La pratique de la vie intérieure, je ne vais pas insister, c'est ce dont je vous parle depuis pratiquement que j'ai commencé les sermons. Reprenez tous les sermons que j'ai faits sur la vertu, sur la grâce, sur les rapports entre la vie contemplative et la vie active. Je vous ai parlé, n'allez pas chercher à midi à 14h. La vie intérieure, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le sérieux avec Dieu, c'est la fidélité à Dieu, c'est le courage, c'est de ne pas sonner la cloche, rappelez-vous ce sermon, ne pas sonner la cloche, accepter la croix, être fidèle à Jésus-Christ. Lisez par exemple les mémoires de sœur Lucie qui vous raconte ce qu'est une vie de famille chrétienne. Deuxièmement, la pratique des œuvres. Je vous ai fait un sermon spécialement sur les œuvres de miséricorde. C'est ça la pratique des œuvres. Les œuvres de miséricorde corporelle, spirituelle. Cherchez à droite, à gauche, enseignez le catéchisme, enseignez la doctrine. Soutenez-vous mutuellement, regroupez-vous entre fidèles de la tradition. Sanctifiez le dimanche ensemble, dites le chapelet avec des amis. Le Padre Pio recommandait particulièrement l'organisation de groupes de prière. Je pense qu'il faut faire des groupes de prière hebdomadaires, des rencontres hebdomadaires sur la prière, l'étude d'un petit peu de catéchisme, entre vous, prenez le catéchisme de Saint-Pédis ou du Concile de Trente, ou écoutez mes sermons, et priez ensemble. Faites attention que dans ces réunions, il n'y ait pas de conversation oiseuse et surtout, surtout, qu'il n'y ait pas de critique du prochain. Saint Jean Bosco dit que des prêtres ont dit du bien ou rien. Je dois vous mettre en garde contre une mauvaise habitude de juger les prêtres, de juger selon les apparences, peut-être selon leurs défauts, et de ne pas chercher à voir la fidélité de leur doctrine. Un prêtre peut être agréable et dangereux s'il a une mauvaise doctrine, un prêtre peut être désagréable et très profitable s'il a une bonne doctrine. Surtout, rappelez-vous qu'un prêtre doit être un aigle à la prière, un lion dans la chair, un agneau au confessionnal. Ne reprochez pas aux prêtres d'être des lions lorsqu'ils parlent. Ils veulent faire de vous des lions et non pas des chiffres molles. Il est normal que les bons prêtres vous choquent, vous surprennent, parce qu'ils tiennent le langage de l'Évangile auquel vous n'êtes plus habitué. Oui, oui, même ceux qu'on appelle les traditionalistes. Je ne vais pas faire votre procès, mes chers amis, mais faites votre examen de conscience. Vivez-vous vraiment selon l'Évangile? Avez-vous l'amour de la croix? Avez-vous le désir de vous consacrer à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que votre fidélité liturgique enracine profondément dans vos âmes l'amour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ? On connaît les deux livres de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge et l'amour de la sagesse éternelle, de Jésus-Christ, sagesse éternelle. On ne connaît pas son petit fascicule qui s'appelle « Lettre aux amis de la croix ». Alors vous, traditionnalistes, qui avez tant reçu, êtes-vous vraiment des amis de la croix? Et cherchez-vous à faire de vos proches des amis de la croix? Et cherchez-vous comme amis ceux qui sont déjà amis de la croix? Alors ne jugez pas trop vite les prêtres. Les prêtres modernes sont modernistes, et vous vous en méfiez. C'est vrai qu'il faut se méfier de la doctrine moderniste, mais ne les méprisez pas. Ayez pitié d'eux. Priez pour leur conversion. Et puis les prêtres traditionnalistes, c'est triste à dire, mais ne les critiquez pas. Et demandez-leur de faire de vous des amis de la croix. Oh, comme la mondanité peut s'infiltrer dans les rapports des laïcs et des prêtres lorsque ceux-ci se connaissent trop bien, qu'ils se voient trop souvent, qu'ils prennent trop de liberté. Oh, qu'il est facile de favoriser les prêtres dits agréables, les prêtres qui font les caprices des laïcs, et qu'on fuit les prêtres qui, au contraire, passent la paille de fer, et pourtant, c'est bien cela dont nous avons besoin. Et si Saint Jean Bosco disait que des prêtres ont dit du bien ou rien, je crois que cela est vrai également des chrétiens, parce que le chrétien est sacré. Alors peut-être n'est-il pas toujours fidèle à son caractère sacré, qu'il lui a donné le baptême et que lui donne toutes les communions. Mais là aussi, des chrétiens, ordinairement, ont dit du bien ou rien. Et lorsqu'il faut parler des défauts, des problèmes, quelquefois des vices du prochain, ce doit être toujours comme un médecin. Un médecin ne se complaît pas à relater les maladies de son patient. Et lorsqu'il les énumère, c'est toujours pour porter remède. Donc je vous disais, regroupez-vous, mais faites bien attention. Des groupes de prière sont très importants, mais faites attention, pas de conversation oiseuse, ni de mondanité ensuite. Et troisième partie de ce sermon, les conseils pratiques. Tout d'abord, une grande vie mariale. La consécration à la Très Sainte Vierge. Je vais de nouveau, cette année, faire une campagne de consécration à la Très Sainte Vierge pour le 8 décembre. Selon la préparation de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, je vous donnerai des textes pour cela. Reprenez mes sermons, j'en ai deux séries sur la consécration à la Très Sainte Vierge. C'est une sorte de testament que je vous donne. Quand je serai parti, si vous êtes tous consacrés à la Très Sainte Vierge, j'aurai confiance que l'œuvre continuera. Mais si je devais rester des siècles et que vous ne consacriez pas à la Très Sainte Vierge, je travaillerais en vain. Qui dit consécration à Marie, dit chapelet tous les jours, rosaire lorsque vous le pouvez. Deuxième conseil que donne Don Chotard, la vie liturgique. Cela va vous paraître paradoxal puisque aujourd'hui, Il y a beaucoup de messes auxquelles on ne peut plus assister, de liturgie moderne qui est terriblement dangereuse pour l'âme et de laquelle on doit se tenir à l'écart. Même la liturgie traditionnelle, lorsqu'elle est donnée sans lutter contre le monde, sans donner l'amour de la croix, sans vous faire changer profondément votre style de vie et votre manière de vie pour qu'elle devienne chrétienne. Même la liturgie traditionnelle, lorsqu'elle vous donne des sermons pieux, lorsque les prêtres vous donnent des sermons pieux, mais non pas des sermons qui vous préparent au martyre et qui vous préparent à tenir et à faire tenir ceux dont vous aurez la charge dans les épreuves qui doivent venir, même cette liturgie traditionnelle est dangereuse parce qu'il ne suffit pas d'avoir la liturgie traditionnelle, il faut tout le reste avec. Alors comment puis-je vous parler du culte liturgique alors qu'il est si difficile aujourd'hui et la plupart du temps si peu prudent de vous rendre aux messes qui sont les plus proches de chez vous? Rappelez-vous le sermon que je vous ai fait sur les sacrements, le signe seul, la réalité, et entre les deux, le signe qui est en même temps chose, la chose qui est déjà signe, mais qui est un intermédiaire. Eh bien, ce qu'il faut, c'est la réalité. Je relisais pour vous, parce que c'est important, l'histoire de la résistance catholique au communisme en Roumanie, et l'interview d'une mère prieure carmélite, qui fut mise en prison, puis emmenée déportée ensuite dans un camp de travail très dur. Heureusement, elle était avec quelques autres sœurs. Et elle dit que dans toute cette période, elle n'a jamais manqué la messe du dimanche. Elle le dit comme cela, hein. Je n'ai jamais manqué la messe du dimanche. Je me suis toujours uni aux messes qui étaient célébrées ailleurs par les prêtres encore libres. J'ai toujours fait la communion spirituelle. Et elle ajoute, une de mes sœurs avait plus de mal parce qu'elle avait besoin des signes extérieurs. Alors, la mère prieure lui a fait comprendre que justement le bon Dieu lui demandait d'avoir une vie plus profonde, plus intense d'union à lui et d'accepter cette providence qui faisait qu'elles étaient privées de l'aspect purement sacramentel de la messe, mais qu'elle n'était pas privée de la présence de Dieu. Prenez donc Guéranger, je l'ai publié sur le site. Faites la communion spirituelle, faites-la tous les jours si vous pouvez, en tout cas au moins tous les dimanches. Sanctifiez tous les dimanches en vous unissant à une messe à distance. Enfin, dernière recommandation de Don Chotard, la garde du cœur, la présence de Dieu. Tous les matins, vous vous levez, vous faites votre prière. Rappelez-vous que même lorsque vous oublierez Dieu, lui, Dieu ne vous oubliera pas. Et lorsque vous l'aurez oublié, humiliez-vous, revenez à lui en lui disant « Mon Dieu, mon Jésus, vous voyez, je suis bien faible, je voulais vous tenir compagnie toute la journée et voilà que j'ai oublié. » Et le Seigneur vous rassurera quelquefois. Il vous dira « Oui, tu n'as peut-être pas pensé à moi. N'empêche que tu as fait ce que je t'ai demandé. » D'autres fois, il vous fera des reproches en disant « Oui, tu m'as tellement bien oublié que tu m'as déplu aujourd'hui. » Je conclurai par l'importance des retraites. Faites des retraites tant que vous en avez la possibilité. Une retraite, c'est un trésor. Ce que je vous donne dans les sermons, d'abord est divisé, ensuite ce n'est pas la même chose que de vous parler en vis-à-vis et de vous voir, et puis ce n'est pas structuré de la même manière. Alors profitez des retraites, cela vous fera beaucoup de bien, et venez avec des amis, venez même, ayez l'audace d'amener en retraite des gens qui ne sont pas baptisés, ou des chrétiens qui n'ont pas tout compris. Le programme que je vous trace est beaucoup plus facile que vous pourriez croire. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ce programme est très facile si nous sommes des petits-enfants, mais il sera très difficile si nous sommes orgueilleux, hélas. Que la Très Sainte Vierge vous aide et qu'elle vous guide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.